Charles emporta le plus joli costume de chasse, le plus joli fusil, le plus joli couteau, la plus jolie gaine de Paris. Il emporta sa collection de gilets les plus ingénieux. Il y en avait de gris, de blanc, de noir, de couleur scarabée, à reflets d'or, de pailleté, de chiné, de double, à châle ou droit de col, à col renversé, de boutonné jusqu'en haut, à bouton d'or. Il emporta toutes les variétés de col et de cravate en faveur à cette époque. Il emporta deux habits de buisson et son linge le plus fin. Une telle valise, c'est celle de Charles Grandet, le personnage de Balzac, qu'Eugénie Grandet regarde avec amour. Contre-exemple total, m'a-t-il semblé, de ce que doit être une valise de vacances. Voyageons simple cet été et sobre. Bonjour Olivier Saillard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien directeur du musée de la mode du palais Galliera. Vous étiez commissaire de l'exposition consacrée au couturier Azzedine Alaïa, qui s'est terminée tout récemment à Paris. Mais nous en parlerons tout à l'heure. Nous parlerons de l'homme et aussi de ce que veut dire pour vous de passer de la théorie à la pratique, puisque vous avez inauguré votre première ligne de vêtements et que vous avez été nommé à la tête d'une grande maison de chaussures. Alors, j'ai lu qu'un jour, le couturier Azzedine Alaïa, dont vous étiez proche, vous avait raconté prendre parfois un taxi pour se balader dans Paris et voir ce que portaient les femmes. En venant ici à la maison de la radio, est-ce que vous avez fait de même ?
Oui, j'ai fait de même, j'ai pas vu beaucoup de femmes.
Donc... Ah bon ? C'est-à-dire dans la rue ?
Dans la rue,
les Parisiennes
j'en ai pas
se
vu
cachent.
Beaucoup ce matin. Mais non, oui, c'est une très jolie histoire qu'il m'avait racontée. Je crois que c'est avec un chauffeur et il m'avait dit un jour, oh, je suis allé dans la rue, les filles, là, en ce moment, les mini-jupes, elles veulent plus, hein, elles veulent des shorts, hein, elles sont beaucoup plus à l'aise comme ça, il faut faire des shorts. Et j'avais trouvé ça joli, parce que dans les discours que les couturiers peuvent avoir, les créateurs peuvent avoir, on parle plus de ce que les femmes ont besoin ou de ce qu'elles mettent. On parle d'une espèce de fantasme de la femme, mais en fait, c'est vrai, vous voyez dans la rue, toutes les filles, les jeunes filles, n'importe où dans le monde, portent plus des shorts. Donc j'ai trouvé que ce grand couturier qui était au sommet de son art continuait encore aussi d'apprendre des autres. C'était plutôt tendre.
Et vous, qu'est-ce que vous apprenez des autres quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, alors un peu plus tard dans la journée pour croiser des femmes?
Je trouve que les gens sont beaucoup plus libres, beaucoup plus simples que ce que les podiums de mode veulent bien nous dire. Il y a un jour, je ne sais plus qui m'avait demandé, une journaliste je crois qui m'avait dit « Tiens, si un extraterrestre venait d'une autre planète et débarquait au musée Galliera, qu'est-ce qu'il apprendrait de la mode ?» Et en effet, on n'avait que des robes de Balenciaga, de Dior, de Chanel, enfin autant de choses que toutes les femmes dans la rue à 7h du matin ne portent pas. Et on avait très peu de t-shirts et très peu de jeans. Donc je pense qu'il y a un vêtement traditionnel contemporain qui est commun presque à tous, hélas, à toutes les géographies, et que c'est bien plus simple que ça. Je pense que le corps était réinvesti beaucoup plus que le vêtement.
Et pour les hommes, vous qui avez écrit un ouvrage, alors il y a déjà plus de 20 ans, mais sur la mode masculine, sur l'habit de l'homme, on peut dire la même chose?
Alors il y a eu une grande démocratisation et un accès à l'apparence pour la mode masculine, surtout en 20 ans. Il était vraiment incongru qu'un homme puisse aller au travail avec un sac, si ce n'était un cartable. Il y avait encore une génération de femmes qui achetaient des vêtements pour leur mari. Tout cela a changé vraiment considérablement à 20 ans. Ce que je dirais un peu la même chose, c'est qu'au-delà même du vêtement, c'est vraiment le corps qui a pris le dessus. Tout le monde fait du sport, un peu de bodybuilding, s'achète une bouche comme une autre ou met du silicone, enfin tout le monde. Ou pratique des sports pour fabriquer un corps d'apparence.
Et donc l'habit aussi nécessairement fait partie de cette démarche.
L'habit est devenu de plus en plus collant, de plus en plus léger. Ce que l'on peut voir, par exemple, quand on travaille dans les collections de musées, c'est que les vêtements étaient très lourds, même encore jusque dans les années 80, surtout encore dans les années 80. Et que ça, c'est devenu quelque chose de très, très souple. Le lycra, le stretch, enfin, tous nos vêtements sont un petit peu extensibles. Ils pèsent rien, on ne met pas vraiment de sous-vêtements. Donc ça, c'est cette... surface, cet espace qui existait entre le corps et le vêtement a disparu.
À partir de la naissance du prêt-à-porter dans les années 50 à 55, la mode s'est étendue à toutes. Seulement, c'était une mode qui conservait ses structures d'autrefois. C'est-à-dire qu'elle était créée par quelques créateurs types, leaders, généralement de la couture, et qu'à partir de là, elle s'étendait à tout le monde comme une sorte d'uniforme. Or, maintenant, cette démocratisation ne supporte plus cette uniformisation. D'abord, l'influence générale de ce top social que représentait la clientèle couture est complètement contestée et n'est plus admise d'une façon générale et d'ailleurs ne correspond plus à la réalité des faits. La clientèle de la couture n'est plus non plus celle qui donne le ton social. Je ne parle pas seulement en portant uniforme, mais ce sont plus ceux qui ont vraiment de l'influence. L'influence se situe maintenant au niveau des cadres supérieurs, des cadres moyens, des intellectuels, etc.
Archive de 1971, c'était l'émission Chute, c'est l'heure sur France Inter. Et ce monsieur qu'on entend, c'est monsieur Durosel. Il était secrétaire du prêt-à-porter français. Qu'est-ce que c'est que...
Bruno Durosel.
Je ne connais pas
Bruno
son prénom.
Bruno Durosel avait écrit un livre. Je crois que, enfin, en tout cas, on entend qu'il maîtrise plutôt le sujet. Je ne sais pas si cette fédération ou ce syndicat existe encore.
Oui, c'est pas mais un secrétaire fait, d'État, en tout cas.
Un secrétaire d'État.
Non, non, je plaisante. Non, non, bien sûr.
Et non, ce qu'il dit, d'ailleurs, est assez juste. Réapparaît aujourd'hui sous d'autres hiérarchies, ce qu'il compare entre la haute couture, le prêt-à-porter et puis l'artifice tel que des populations s'en emparent, se vérifie complètement aujourd'hui. À la différence, je trouve que depuis peut-être 10-15 ans, on peut réussir dans tout le domaine, sauf peut-être en politique, avec n'importe quelle apparence.
Et avec aussi ce qui a changé, c'est la prédominance, la prévalence de ces faiseuses de mode, entre guillemets, sur YouTube, sur Instagram, qui donnent un peu le là de la tendance. Est-ce qu'on peut parler de perte d'influence des grandes maisons ? On n'arrête pas d'annoncer la fin de la haute couture.
Il y a des sujets très compliqués. La haute couture, c'est une industrie d'excellence qui produit très peu, qui a un calendrier de défilés très restreint. On peut se l'avouer, c'est une industrie qui vit parce qu'il y a derrière des produits dérivés qui fonctionnent, dont le prêt-à-porter, dont les sacs, dont le parfum, dont plein de choses. Après, les influenceuses que vous nommez, je pense qu'elles sont des moyens de communication comme les magazines l'étaient à une époque. Je suis pas sûr que leur influence soit toujours à la dimension de leurs abonnés ou de leurs followers.
Des outils de communication, parce que les marques les fournissent aussi en vêtements.
Oui, alors ça, je trouve que c'est quand même plutôt un sujet qui n'est pas à ignorer. Une communication qui est achetée, voulue, n'est pas forcément une information.
Alors, Olivier Saillard, vous avez lancé votre propre collection de vêtements, Moda Povera, et je voulais savoir, vous allez nous en parler, mais comment vos connaissances d'historien éclairent aujourd'hui votre pratique ? C'est-à-dire comment vous avez mis en œuvre et en pratique tout ce que vous avez mobilisé de connaissances sur l'histoire de la mode, et notamment masculine, enfin bon bref, la mode, depuis tant d'années ?
En fait, je pense que je continue de faire la même chose. Lorsque j'ai voulu faire cette collection de vêtements, qui a une dimension très très courte, hein, je ne tiens pas à me lancer dans une économie qui deviendrait écrasante pour moi.
Ça vous a amusé en fait, c'est ça ?
Ça m'amuse, ça me rassure, c'était une thérapie. On a travaillé à partir de t-shirts. J'ai demandé à deux personnes, Martine Lenoir et Axel Douai, qui avaient travaillé toutes deux chez Madame Gray. L'une en qualité de couturière, l'autre en qualité de mannequin. Ça m'intéressait de peut-être faire de cette histoire justement que je montrais ou que j'écrivais dans des livres ou que je montrais dans des formats d'exposition. Ça m'a intéressé de pouvoir en faire un format de création, un matériau de création. Et c'est ce que nous avons fait. Et je pense, de ce point de vue-là, avoir continué de faire un travail de commissaire avec, peut-être que j'ai un goût qui est toléré ou pas, mais bon, je sais quand même un peu là où on va vers... pas du chic, j'aime pas ça, ça fait un petit peu ancien et prétentieux. Je pense que...
Élégant ?
D'être un petit peu élégant, oui, peut-être.
Vous avez fait de la haute couture avec des t-shirts que vous avez achetés 5€ sur Internet. Qu'est-ce qui fait haute couture alors
si le savoir-faire, le savoir-faire. Je crois qu'on peut faire du rare, du luxe, du cher sans dépenser... du moment qu'on a un petit peu la connaissance, si ce n'est l'instruction, ou en tout cas la réserve, la prudence, la distance, le savoir-faire. Et celui de Martine Lenoir qui savait draper les robes chez Madame Gray est venu apporter ses t-shirts qui sont des vêtements de l'ordinaire vers un territoire très haute couture.
Qu'est-ce que c'est les techniques de couture de Madame Gray ? À quoi ça ressemble
c'est
à la
plissé,
fin ?
C'est du plissé.
Des t-shirts plissés.
C'est du plissé, c'est du drapé cousu dont on ne voit pas les points. C'est une technique particulière avec des creux, des pleins. Enfin, c'est plus difficile, mais c'est à la fois de l'obsession.
Alors, les couturiers aiment plutôt inventer des formes qui ne sont pas nécessairement vues dans la rue. Et vous, c'est l'inverse. Vous êtes inspiré de ce que vous avez vu dans la rue ?
Ben, je trouvais que, puisque depuis, je peux le dire, maintenant, 25 ans, j'ai fait 140 expos avec des créateurs que j'adorais, d'autres je n'ai pas eu l'occasion de les exposer, mais ce que je vois toutes les saisons et plusieurs fois dans l'année, c'est qu'il y a un nombre d'idées qui se voient sur les podiums, certaines des bonnes, hein, je ne suis pas à charge, mais qui ne se réalisent pas dans la rue. Alors je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour rien, et peut-être qu'il faudrait reprendre la théorie du regard de la rue, pas comme j'ai fait ce matin, pour justement en tirer quelques leçons.
Alors, il y a un an, vous avez été nommé au style et au patrimoine d'une grande marque, d'un grand bottier limousin, je ne sais pas si on peut dire la marque, que d'ailleurs tout le monde ne peut pas s'offrir, ce sont les chaussures Weston. Sans épiloguer sur Weston, ce qui m'intéressait, c'était de savoir aussi comment un atelier de chaussures et une telle marque ont pu traverser les époques, quand par exemple, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, l'industrie de la chaussure a périclité malgré toutes les belles initiatives lancé ici et là pour relancer et conserver les savoir-faire.
Il y a une manufacture en effet à Limoges qui est indépendante, qui peut produire. Il y a des propriétaires qui se sont succédés, mais pas nombreux. Il y en a deux essentiellement et qui ont gardé un petit peu le secret précieux de cette marque. Alors moi, c'est ce qui m'intéressait. Il y a des modèles encore chez Weston qui datent de 1937. Alors ça contredit tout ce que l'on peut dire de la mode. Il y a encore des modèles de chaussures qui sont exactement les mêmes et que les gens continuent d'acheter et qui sont le modèle du mocassin qui est le plus célèbre date de 1949. Donc ça m'intéressait qu'il y ait ce patrimoine en vie, un patrimoine humain aussi, puisque ce sont patrimoine de gestes qui n'ont pas changé. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça a duré, mais tout ça est toujours très fragile.
Qui sont ceux qui travaillent aujourd'hui dans ces ateliers ? Ils sont combien ?
Ils sont à peu près 250. Ce sont donc, ils sont répartis dans deux ateliers, tous très spécifiques, avec des connaissances et des savoir-faire qui parfois n'ont pas bougé.
C'est la rue qui m'intéresse. Quand tu vois les jeunes, comment ils sont et tout, tu sens ce qu'ils ont envie.
De porter et qu'ils ne portent pas.
Bien sûr.
Et qu'ils ne portent pas, alors.
Il y a une façon qu'ils le portent. Tu dois bien regarder. Et tu peux traduire à ta façon. Les voyages, les gens que tu rencontres. Moi, je voyage sur mon tabouret. Tout le monde passe et j'écoute. Je passe plus de temps à écouter que travailler. Je peux écouter la radio, la télé, et si j'entends d'un côté ou d'autre quelque chose qui me plaît, hein, je lève la tête. Jette un coup d'œil et je me replonge. Pour moi, il y a des gens que ça les dérange. Moi, les bruits, pas du tout, parce que je suis né dans le centre de la ville arabe de Tunis, où les bruits 24 sur 24. Des marchands de légumes, le marchand de poissons, le café, la musique, chaque café met, il capte avec son poste de radio, avec des parasites et tout, tu entends des bruits, mais ça ne fait rien. C'est la vie. Et c'est pour ça que j'aime les villes, la campagne, je ne peux pas.
Parce que c'est trop
calme. Un jour, deux jours, mais la nature, elle m'écrase complètement. Les arbres, tout ça, ça me met par terre. Parce que d'un coup, je deviens mystique.
Et vous avez toujours été mystique, Azdine.
D'une autre façon.
Je vous entends toujours célébrer la religion catholique.
Ah, parce que c'est en ville, dans les grandes cathédrales, dans les églises, le Vatican, avec les tenues, les robes, les couleurs, c'est d'un sexy à mourir. Prêtre ou bonne sœur, c'est pareil.
La mystique et l'érotisme, on en revient
là. Le pape,
là.
Si tu lui enlèves les tenues, tout, il devient un homme comme les autres, tu ne crois plus. Quoi, si tu le vois habillé en jean, moi je l'aime le pape avec toutes ses tenues, ses bagues, ses gants, chaussures, sa tiare, tout. Là, ça me plaît. Là, je lui dis, oh mon père, je l'adore.
La voix d'Azedine Alaïa, la voix nue d'Azedine Alaïa, c'était sur France Culture en 2000 par Anne-Lise David. Vous avez consacré à Azedine Alaïa une grande rétrospective en 2013 et beaucoup plus récemment après sa mort en novembre dernier. Il y a le couturier et puis on entend l'homme là et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous qui ne l'avons pas connu, ce qui n'est pas votre cas.
Non, c'est troublant d'ailleurs, je n'avais pas entendu la voix d'Azedine depuis sa disparition et elle est tellement un peu... sortie intacte, ça m'a troublé. Et puis en plus, je crois qu'il n'aimait pas trop l'exercice de parler. Autant c'était un grand conteur, un grand raconteur. qui pouvait aller des rires à l'énervement et amuser toute la galerie. Mais si on lui mettait un micro devant lui, ça s'éteignait parfois. C'était très étrange.
Et c'est la magie d'avoir nu que de faire parler ceux qui ne veulent pas parler.
Il dit des choses belles. Moi, je me souviens qu'il me disait aussi, quand il était à Tunis, il voyait des religieuses catholiques. Et ce qu'il aimait, c'est qu'elles avaient la trace du bronzage de la soquette. Et qu'il trouvait ça très ravissant.
Il racontait aussi qu'à Tunis, la sage-femme qu'il avait mise au monde, c'était elle qui avait deviné qu'il possédait des prédispositions artistiques. Alors, je ne sais pas si dès la naissance, elle l'a deviné ou... Non, ils se sont fréquentés, je crois.
Et il l'accompagnait très tôt, je crois. Il me racontait, entre l'âge de 9 et 12 ans, il l'accompagnait pour l'aider à faire, assister dans les accouchements. Il chauffait l'eau, etc. C'est un destin hors norme, hors du commun, vraiment, que ce personnage de Tunis qui a gravi et qui a été, en effet, très aidé par Madame Pinault, qui était sage-femme à Tunis.
Et lui, donc, a fini par choisir plus tard, jeune adulte, la section sculpture quand il s'est inscrit au concours d'entrée de l'école des Beaux-Arts alors qu'il n'avait que 15 ans. C'était d'ailleurs un peu trop jeune, son père n'était pas au courant. Et pour pouvoir se payer son matériel, il surfilait la nuit des robes pour une couturière du quartier.
C'est vrai, oui, c'est vrai. Et il est vite arrivé à un tel état d'excellence que tout le monde s'est donné l'adresse d'Azdine et qu'il s'est construit une réputation sur ce savoir-faire qui était à l'origine, à la faveur de ses études. Et puis très vite, il est parti à Paris avec Leïla Menchari et l'histoire a commencé. Mais Azdine, avant d'être Azdine Alaïa, a travaillé 20 ans en qualité de couturier, on peut dire, en chambre, auprès des femmes, à les accompagner au plus près de leur corps dans une économie vestimentaire qui était de la réalité.
Il disait « Je fais des vêtements, les femmes font la mode ».
Oui, et de la même manière qu'il disait « Je suis couturier, on ne peut pas s'habiller d'un dessin ». Donc c'est vraiment... Ce sont des choses que l'on peut revoir encore. Il y a toujours actuellement une expo, en plus de la rétrospective que nous avions faite, sur une collection, celle de 92, qui est la première qu'il ait faite dans le lieu qu'il a acheté dans le Marais. C'est une expo qu'on peut voir encore... cet été jusqu'en janvier.
Où ça ?
À la galerie Azdine Alaïa, rue de la Verrerie. Et on peut comprendre tout ça, toute cette faculté qu'il avait de comprendre au plus près les femmes et de venir un petit peu accompagner leurs gestes par du vêtement qui n'était que... pas un support, mais en tout cas une caresse.
C'est vrai que c'était pas un styliste, Azdine Alaïa, non. Il était couturier, un ouvrier de la haute couture, couturier, tailleur, architecte, créateur, sculpteur, il maîtrisait toutes les étapes.
Tout.
Ça existe encore ?
Je crois pas. Il y avait dans l'histoire de la mode peu de créateurs, de couturiers comme ça, Madeleine Vionnet, Balenciaga, Madame Gray, lui... qui, en effet, savait couper, modéliser, coudre, assembler, toujours avec une espèce de souci et d'obsession à refaire toujours les mêmes choses. Or, faire et refaire, c'est plus difficile que changer. C'est vraiment, il faut accepter un petit peu de creuser plus profondément. Je ne crois pas qu'il y a des personnes qui, en tout cas, aient ce talent. Je souhaite que les jeunes générations se replongent dans la technique plutôt que dans le style. Que je pense que ça ferait du bien à tout le monde.
Qu'est-ce que c'est la silhouette, Azdine Alaïa ?
Ah, c'est les hanches, c'est le derrière, c'est le dos, c'est les hanches. Je pense que vraiment, si on décrit une silhouette Alaïa, ça caresse les courbes.
Comment pense-t-on un vêtement destiné à être conservé, à résister aux modes ? C'est pas seulement une question de matériaux.
Non, et il faut surtout pas y penser, je pense. Il faut plutôt penser qu'est-ce que je vais faire pour que les femmes puissent le porter le plus longtemps possible. Azdine disait qu'une femme, quand elle arrivait, on devait lui dire qu'est-ce que tu es belle, en ce sens que c'est le visage qui devait se montrer.
Et que l'habit
ne se remarquait pas tout de suite. Et je pense que c'est ça la clé d'une forme d'intemporalité.
Lui portait, dans sa jeunesse, des blouses d'orfèvre et parfois des blouses de boucher avec la capuche, a-t-il dit un jour ? Ça vous surprend ?
Ah bah alors ça, je ne l'ai jamais su.
Peut-être. Le vêtement n'est pas toujours lié à la mode. Toute façon, ça peut aussi faire un excellent chiffon pour le ménage en fin de vie, mais surtout des vêtements sont aussi liés à des faits divers. Et vous avez, alors un peu sans transition, Olivier Saillard, vous avez trouvé, glané dans la presse, c'était il y a quelque temps, des faits divers liés aux vêtements, à l'habit.
En fait, il y a deux territoires très étranges pour le vêtement. Il y a, on en parle quand il s'agit de la mode dans les magazines de mode, et on en parle dans les faits divers lorsqu'ils conduisent à certains drames. Alors je me souviens que j'avais trouvé en effet un travesti dans une prison qui s'était suicidé avec la taille élastique de sa jupe. On peut se pendre avec une cravate. Enfin, et ça, ça m'avait interrogé. Alors, je rassure tout le monde, il n'y en a pas tous les jours. Mais en tout cas, c'est un endroit où, en tout cas, les vêtements sont décrits, sont des espèces d'armes qui conduisent, en effet, à des drames plus ou moins fatals. Et ils en avaient fait des poèmes, mais c'est il y a longtemps.
Oui, c'était une petite parenthèse. Olivier Saillard, vous avez toujours eu envie, on entendait Asdine Alaïa parler de son enfance à lui, est-ce que vous avez toujours eu envie de faire des vêtements quand vous étiez petit?
Oh non. Non, c'est venu tard.
Moi, vous faisiez un magazine de mode quand
je faisais un magazine de mode, mais c'est pas dire que je faisais des vêtements. Je faisais un magazine de mode et je dormais parce que j'avais pas de chambre particulière individuelle et je passais beaucoup de temps dans le grenier où j'avais sorti tous les vêtements de mes sœurs et j'étais comme dans une espèce de grand sofa de vêtements et je rêvais, je fumais un peu, j'écrivais ce roman, mais je m'étais pas autorisé à faire des vêtements.
Et vos sœurs, c'était vos modèles ?
Ah oui, parce que j'ai eu 4 sœurs, et donc ça avec des écarts d'âge très différents, donc les modes se renouvelaient.
Votre sœur Lucette, vous étiez à Pontarlier, dans le Doubs,
et exactement.
Donc, et vous aviez une sœur un peu excentrique.
Je ne sais pas si elle était excentrique, en tout cas, on était d'un milieu modeste, donc il ne faut pas penser qu'on était dans un milieu particulier, c'était un milieu modeste, mes parents étaient chauffeurs de taxi, et elle avait pour intuition d'aller se faire faire chez une couturière de quartier des vêtements qu'elle voyait un peu dans le goût parisien. Puis j'avais une autre sœur aussi, Sylvie, qui était elle, qui a travaillé très très vite et qui courait s'acheter des vêtements, donc on était très animés par ça, par l'odeur de Paris.
L'odeur de Paris, l'ambiance des grands magasins, au bonheur des dames.
Et puis, dans une ville en plus, qui est la plus froide de France, où il y a beaucoup de neige, où alors on ne s'explique pas comment on n'ait plus envie d'autre chose et de mode.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coats, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz.
Ella Fitzgerald, Poutine on the Ritz, pardon, où Ella Fitzgerald décrit les étoffes de ceux qui défilent à New York sur Park Avenue, notamment pour oublier leurs états d'âme, ils se mettent sur leur 31. Voilà, merci beaucoup Olivier Saillard d'être venu avec nous. On peut se mettre sur son 31 pour oublier nos petits coups de blues ?
Oui, ou même sur son 32, sur son 29, ça marche aussi.
Un débat agite les réseaux sociaux en ce moment avec plus de verve encore que pour l'affaire Benalla, pour ou contre la Crocs à talons ?
Ah non, contre.
Définitivement.
Il n'y a pas de doute.
Merci d'être venu ce matin dans les studios de France Culture. Merci à toute l'équipe des matins, Pauline Chanu et Jean-Christophe Brianchon à la programmation, Marine Beccarelli et Cédric Fuentes, Aurélie Clément et Cosima Mezidi. Des matins réalisés par Mélina... Oh, j'y vais y arriver. Eligue, pardon, excuse-moi. Avec la technique aujourd'hui, Jacques Hubert. France Culture, il est 9h.